Alors, nous parlons foot.
Oui, c'est une grosse semaine pour le soccer. D'abord, demain, on va connaître qui va présenter la Coupe du Monde 2026. Il y a deux candidatures. La candidature nord-américaine qui réunit le Canada, les États-Unis, le Mexique et le Maroc. Et jeudi, c'est le début de la Coupe du Monde en Russie. Entre les deux, il y a l'Impact également qui va jouer demain au stade Saputo. Mais revenons à la candidature nord-américaine en prévision de la Coupe du Monde de 2026. Il y a un bon dossier dans la Presse Plus ce matin de Pascal Milano qui est à Moscou parce que c'est là que va se prendre la décision demain. Ce qu'on apprend, bon, évidemment, là, il y a les représentations des deux groupes, des conférences et on s'active là à essayer de convaincre quelques personnes dont on doute de leur allégeance à voter pour notre candidature. Le comité de la FIFA, selon la Presse Plus, qui est chargé d'étudier et d'évaluer les deux dossiers, aura accordé une note de 4 sur 5 à la candidature nord-américaine et 2,7 sur 5 à la candidature du Maroc. Il faut savoir que la candidature nord-américaine promet beaucoup, 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 beaucoup de revenus en dollars. Et ça, certainement que la FIFA n'est pas insensible à ce genre de choses. Les réticences notées sont par rapport à Donald Trump, qui avait déclaré sur Twitter, évidemment, s'était demandé pourquoi les États-Unis devraient continuer à soutenir des pays qui font du lobbying contre la candidature unifiée. Et comme il est déjà pas très populaire dans le monde, peut-être un petit peu plus ce matin, là, après sa poignée de main, mais disons que l'enjeu géopolitique entre dans la balance. On dit que c'est pas un élément majeur, mais ça peut entrer dans la balance.
Mais juste quand même, je dis pas que c'est le cas précisément pour le choix de demain, là.
Oui.
Mais il y a un historique à la FIFA là de controverses et de magouilles et de petites enveloppes et oui, de jeux d'influence pour les décisions. Là, on pense entre autres au Qatar. Là.
Qatar et même la Russie. Là, c'est...
Oui, tu sais, mais Qatar, je me souviens que ça n'avait aucun sens. Tous les, en disant là, au niveau de la température, par exemple, pour tenir la Coupe du Monde, ça n'avait pas d'allure.
Oui.
Puis que les, dans le fond, les Qataris se sont achetés une Coupe du Monde. Là,
Ce qu'on a fait, c'est que le vote n'est plus limité aux 24 membres du comité exécutif de la FIFA. Mais tous les membres de la FIFA, tous les pays membres, ils sont 207, ont droit de vote et c'est un vote par pays. Ce qui fait que majorité simple, c'est toi qui se vois attribuer la présentation de la Coupe du Monde. On espère que de cette façon, tu sais, c'est peut-être plus difficile de corrompre 207 personnes que d'en corrompre 22, là. Alors, on espère que de cette façon, on pourra éliminer les problèmes qu'on a éprouvés par le passé. On parle de Montréal également dans l'article. On dit que le Task Force, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la FIFA a donné une note de 3,9 sur 5 à la candidature de Montréal. Les bons points, le stade et le transport. Évidemment, il va y avoir beaucoup de rénovations au stade. Nouvelle structure pour le toit, nouveau siège, amélioration au chapitre de l'audiovisuel. Il y a le revêtement synthétique également. Là. Ça, c'est pas dans les critères de la FIFA. Les doutes émis par la FIFA sont relatifs à l'hébergement parce que ça aurait lieu en même temps que le Grand Prix de Montréal. Et on se demande, est-ce qu'il y a une infrastructure nécessaire pour accueillir tout le monde en même temps? Alors, demain, on devra annoncer quelle candidature est retenue. Et ensuite, il va y avoir une deuxième étape. On va commencer là à déterminer les 16 villes où seront présentés les matchs de cette candidature unifiée. Et il faut que je te parle de la petite Italie. Nos amis italiens se sont pas encore remis de l'élimination de l'Italie, qui ne participera pas à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1958, éliminé par la Suède.
Ça, c'est l'insulte suprême.
Ça, là, écoute, les Italiens, là, même que j'écoutais Jérémy Filosa hier, qui disait « Je suis pas certain que je vais regarder le tournoi cette année. » J'en doute un petit peu, là, connaissant l'amour de Jérémy pour le soccer, je pense qu'il va jeter un coup d'œil. Mais dans la petite Italie, on a déployé une banderole sur laquelle il est écrit « On encourage tous les pays à la Coupe du Monde, sauf la Suède. » Et semble-t-il qu'il y a une assez grande rivalité entre ces deux pays. Je te parle des Capitals de Washington vont défiler aujourd'hui dans les rues de Washington. Et là, depuis quelques jours, on s'agite beaucoup sur les célébrations qui ont suivi cette première conquête de la Coupe Stanley. Ovechkin était à Jimmy Fallon hier et on a fait boire Jimmy Fallon dans la Coupe Stanley. Il y avait Ovechkin et Brandon Oldby. Les deux là l'ont pris par les bras et les jambes. Et ils l'ont basculé dans la coupe pour qu'ils puissent boire. Et on a parlé, ça j'ai appris ça, je savais pas ça, du rituel d'avant-match de Brandon Oldby, Ça veut dire qu'il joue de la guitare pour ses coéquipiers avant chaque match.
Est-ce que les gens apprécient?
Ben écoute, ça a de l'air. La première fois qu'il a fait ça, les Capitals ont joué 20 matchs consécutifs sans subir la défaite. Alors,
parce que les choix musicaux dans un vestiaire, on sait que ça peut créer certaines tensions parfois.
Ça. Oui, ça, tu sais, on sait que...
Ça dérange.
Par expérience personnelle ici à Montréal. Mais écoute, la plupart des gens disent, écoutez, là, la Coupe Stanley, il y en a eu des parties de Coupe Stanley dans l'histoire. Là, c'est parce que maintenant, ben, il y a les téléphones, il y a Instagram, il y a les médias sociaux.
On le voit.
On le sait à la minute près, là, qu'est-ce que les gars font avec la Coupe.
Merci, 8h25. Métropolitaine, Marc.